8h14 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk qui est le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Elle aurait eu 15 ans en décembre. Nous allons ce matin, et c'est tout à fait normal, respecter le temps de l'enquête. L'enquête sur la mort de Dina, victime selon ses parents de harcèlement, d'insultes homophobes et racistes durant deux ans. Monsieur le ministre, je ne vais pas vous demander ce que peut dire l'enquête, mais est-ce qu'on peut confirmer ce matin la réalité et la gravité de ces faits de harcèlement ?
Un suicide d'adolescent, c'est toujours quelque chose d'atroce et on doit d'abord exprimer de la compassion pour cette jeune fille et pour la famille et respecter aussi finalement ce que diront les investigations. Il y a certainement eu des faits de harcèlement puisque c'est ce qu'a dit la famille et il faut voir l'enchaînement des choses puisque vous avez vu, elle a changé d'établissement. Mais en effet, je ne veux pas rentrer dans le détail des faits parce que par définition, ils sont spécifiques, complexes et nécessiteront du temps. Simplement, ça doit nous alerter sur les phénomènes finalement de violence de tous ordres qui traversent notre société. Le harcèlement en fait partie. Je vous rappelle que nous agissons sur cette question. Il y a actuellement justement un plan qui se déclenche dans tous les établissements, qui s'appelle le plan phare, qui est fait pour que à chaque fois qu'il y a un phénomène de harcèlement, oui. Il soit déclenché.
Mais monsieur le ministre, avec de la formation, je le lis, ce plan anti-harcèlement, avec de la formation, de l'écoute, mais qu'est-ce qui est fait contre les harceleurs, à part les exclure quelques jours ?
Les harceleurs font l'objet de sanctions, bien entendu, et ces sanctions sont adaptées. Il faut, par définition, les scolariser quand même. On ne peut pas exclure ad vitam aeternam quelqu'un qui a été harceleur. Vous avez parfois des harcelés qui sont harceleurs, parfois des harceleurs qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont harceleurs. Vous avez toutes sortes de situations. C'est complexe, c'est l'adolescence avec tout ce que ça signifie.
Mais il y a des victimes identifiées. Là, dans ce cas, il y a une victime. Pas besoin finalement du temps de l'enquête pour savoir qu'il y a eu d'un côté des victimes, de l'autre côté, on peut parfois les appeler des bourreaux.
Bien entendu. Et donc, c'est justement ce que l'enquête va déterminer. Et il y aura bien entendu un suivi. Le suivi peut être disciplinaire. Parfois, il peut être un suivi pénal. Hein, donc, c'est ce que l'on verra à la lumière de l'enquête. Dans l'immédiat, soyons surtout dans une atmosphère de recueillement et puis d'investigation.
Oui, et de sursaut et de réaction. Vous dites l'aspect pénal, Jean-Michel Blanquer. Ne faudrait-il pas considérer le harcèlement quand il conduit au pire, au tragique, c'est-à-dire au suicide, comme une sorte d'homicide, un homicide volontaire ?
Il faut être toujours dans une forme de, je dirais, de sérieux sur ces sujets, c'est-à-dire aussi bien dans la prévention que dans la réaction. Il faut admettre que chaque cas est particulier. Et s'agissant de la réaction, il faut évidemment être d'une grande sévérité. Maintenant, nous parlons à chaque fois d'enfants et d'adolescents. Nous ne parlons pas d'adultes, avec tout ce que ça signifie sur le plan éducatif.
Mais un enfant peut conduire un autre pire.
Bien sûr, et c'est malheureusement ce qui est arrivé dans de nombreux cas depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. Ça s'est accentué avec le cyberharcèlement, ça s'accentue à l'échelle du monde d'ailleurs. C'est pourquoi le plan que nous l'avons conçu à la lumière des meilleures expériences mondiales, parce que ça n'est pas une fatalité. On se rend compte que lorsque on prend les problèmes à la racine, lorsque les adultes sont formés au sujet, lorsque les enfants sont formés sur cette question...
Ça c'est en amont, mais j'insiste, pardonne-moi, sur
c'est ce que nous faisons.
Oui.
Par exemple, par définition, vous savez, tout ce que nous avons... Tout ce que nous évitons, tout ce qui se passe bien vous n'en parlez pas. Il y a aujourd'hui beaucoup d'établissements qui ont progressé dans la lutte contre le harcèlement et nous avons encore des difficultés dans la lutte contre le cyberharcèlement. C'est pour ça que j'ai convoqué les plateformes tout récemment pour faire un nouveau point sur ce qu'elles font. Par exemple pour que les enfants n'aillent pas sur les plateformes quand ils ont moins de 13 ans, pour retirer les contenus haineux, etc. Nous allons encore avancer sur cette question.
Formation,
il faut aussi
prévention.
En appeler à la responsabilité des familles. C'est pour ça que le plan inclut aussi une formation des parents et une sensibilisation des parents. C'est toute la société qui est évidemment...
Mais je ne voudrais pas insister trop lourdement sur les sanctions, mais c'est aussi une réalité qu'il faut peut-être inclure à ce plan.
Bien sûr, mais elle est déjà inclue dans le plan anti-violence que j'ai élaboré il y a déjà 3 ans maintenant et qui prévoit un régime de sanctions tout à fait sévère. Je rappelle que dans les faits qui ont défrayé la chronique ces derniers mois, à chaque fois, les auteurs sont très durement sanctionnés.
Vraiment ?
Que ce soit, oui, par exemple.
C'est pas ce que disent certains enseignants, mais vous allez y répondre. Où est la vérité, monsieur le ministre ? Par exemple, quand la professeure avait été violentée, bousculée de manière violente, 5 mois avec sursis pour le jeune délinquant. Un prof de maths insulté, sanction, quelques heures de colle.
5 mois avec sursis, comparution immédiate pour un élève mineur, c'est, on peut considérer que c'est peu, c'est tout de même pas rien. Ça, c'est une condamnation pénale. Par ailleurs, cet élève va être rescolarisé dans une structure spécialisée, donc il ne lui arrive pas rien. Vous pouvez pas non plus l'envoyer au bagne à perpétuité. Enfin, il faut rester.
Je vous demande ce que vous répondez à certains enseignants qui vous disent, finalement, il y a une forme de laxisme parce que pas grand-chose ne sont faits, quelques heures de colle simplement.
Le laxisme ne fait pas partie de mon registre, ça arrive qu'on me le reproche. Je sais par contre savoir garder raison, ne pas s'emballer à chaque situation, mais au contraire faire les choses justes. Et donc les choses justes, elles sont d'ailleurs appréciées par qui de droit sur le terrain. Il faut vraiment garder beaucoup de sang-froid par rapport à tout cela. Et ce sang-froid, nous l'avons. Et je l'ai dit à tous, et évidemment d'abord au personnel de l'éducation, tout fait doit être signalé. Tout fait signalé doit être suivi de sanctions.
Mais est-ce que vous avez un exemple précis d'une sanction disciplinaire et ou judiciaire ferme, j'allais dire proportionnée à la gravité des faits, parce que bousculer violemment un enseignant, c'est grave.
Vous voulez que les élèves fassent de la prison ferme, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Je vous pose la question.
Avoir des suites pénales pour des faits qui se passent en milieu scolaire, c'est déjà quelque chose d'assez nouveau. Et donc, il ne faut pas... je ne sais pas ce que sous-entend votre question, mais si vous voulez de la prison ferme pour les élèves...
Je vous pose simplement, monsieur le ministre, la question de certains enseignants qui vous disent « Nous sommes en fragilité dans nos classes, comment faire quand l'élève revient ?» Tout
simplement. Donc, il y a, encore une fois, il y a beaucoup de clichés sur l'éducation nationale, notamment le fameux pas de vague qui serait soi-disant notre doctrine. Peut-être que ça a été le cas dans le passé. Ce que j'ai eu à répéter très fréquemment, c'est que ça n'est absolument pas la doctrine que j'ai demandé d'appliquer à partir de 2017. Qu'il y ait encore quelques effets de cette approche, je ne le nie pas. Mais au fil du temps, on se rend compte que c'est de moins en moins le cas. Tout simplement parce qu'il y a moins d'autocensure. Les professeurs savent que s'ils signalent, il y a un suivi. Les chefs d'établissement savent qu'ils ne sont pas évalués sur le nombre de signalements, mais au contraire sur la capacité à rétablir un bon climat scolaire, c'est ce que nous faisons. Ça passe par plusieurs facteurs. Il y a évidemment les sanctions, le fait d'être très, très clair sur le suivi. Mais il y a aussi tout ce que nous créons comme bon climat. Je pense notamment, et il faut insister sur tout ce que nous faisons pour l'engagement des élèves sur des causes positives. Il faut notamment, dès l'entrée du collège, et à l'image d'ailleurs de ce qui se passe bien dans certains pays, que nous proposions de plus en plus à nos élèves de s'engager pour l'intérêt général, sur le lien intergénérationnel, sur l'environnement, sur le secourisme. Et nous le faisons de plus en plus. Et quand les enfants entrent dans l'adolescence, on a alors proposé des bonnes raisons de faire du collectif plutôt que les mauvaises raisons comme faire la meute.
C'est important, les valeurs. Lorsqu'on devient professeur, avez-vous dit, Jean-Michel Blanquer, on devient fonctionnaire. Lorsqu'on est fonctionnaire de la République, on connaît les valeurs de la République. Et si quelqu'un a un problème avec ses valeurs, c'est possible en tant que citoyen, mais pas en tant qu'un fonctionnaire. Vos détracteurs y ont vu une sorte de mise au pas. En quoi ont-ils tort ?
J'ai dit des choses... Certains se choquent de choses qui sont très banales, vous savez. Je me suis contenté de rappeler des éléments qui font partie de la philosophie de la fonction publique depuis qu'elle existe, et tout particulièrement depuis qu'elle a été conçue. Les principes de service public ont été précisés au début du XXe siècle. Il est évident que quand vous êtes fonctionnaire, vous avez des droits et des devoirs.
Concrètement, ça passe par quoi, respecter ou adhérer aux valeurs de la République?
C'est large, c'est un fourre-tout. Par exemple, j'ai fait quelque chose qui s'est très peu fait auparavant, c'est j'ai radié des personnes qui avaient été dans la radicalisation islamiste. C'est un exemple extrême mais typique de ce que je disais. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire, a fortiori dans l'éducation nationale, et être ainsi aux antipodes des valeurs de la République. Donc voilà, c'est très simple, c'est très serein.
Pourquoi leur temps de crispation? Quand vous dites transmettre les valeurs d'un...
Je pense que ça ne crispe presque personne, en réalité. Vous savez, ça crispe
une petite
minorité.
Oui.
Il y a une petite minorité qui a micro ouvert dans ces cas-là, ce qui est normal dans une démocratie, mais il ne faut pas surévaluer ça. Vous savez, quand j'ai dit ça devant l'amphithéâtre de personnes formées, ils ont été tout à fait... ils ont applaudi, ils étaient bien d'accord. Pourquoi? Parce que chacun comprend que un État démocratique, ça signifie un État qui... favorise la diversité des opinions. Et c'est notre chance, c'est notre bonheur, et c'est précieux au dernier degré.
Il faut le sanctuariser.
Mais pour cela, il doit reposer sur une république.
Quel est le rôle de l'enseignant? Est-ce que c'est de transmettre des valeurs ou de transmettre un savoir et des connaissances? L'éducation se fait encore à la maison et l'instruction doit rester à l'école.
D'abord, le premier rôle, c'est de transmettre des connaissances. D'où le fait que j'insiste en permanence sur lire, écrire, compter, respecter autrui, à l'école primaire et au fait que c'est le socle fondamental qu'on doit donner à chaque enfant. Donc c'est transmettre des connaissances, mais ce faisant, on transmet aussi des valeurs. D'ailleurs, vous avez des grands problèmes de respect des valeurs quand vous avez des problèmes de maîtrise des savoirs fondamentaux de base. Et souvent, pas toujours, l'un n'est pas, il n'y a pas une équivalence exacte, ça se saurait, mais ça favorise, on va dire. Quand vous avez des problèmes avec la logique, souvent ça mène à un problème de respect des valeurs.
Moins il y a d'éducation dans la cellule familiale vis-à-vis de l'enfant, plus il y a d'exigences vis-à-vis du professeur.
Oui, c'est un énorme problème de société,
bien sûr.
Mais
c'est au professeur de combler ces lacunes ?
Non, il doit y avoir une complicité, une convergence entre les parents et les professeurs. C'est l'idéal que l'on doit viser. C'est un idéal qui existait davantage auparavant. Et on se rend compte aujourd'hui que moins il y a d'exigences en famille, plus il y a d'exigences vis-à-vis des professeurs, ce qui est totalement lamentable. Et mon message a toujours été le même, c'est qu'il y a un enjeu de coéducation. Il faut assumer que c'est de la coéducation parce qu'il y a les valeurs qu'on transmet en famille, mais il se passe aussi des choses à l'école et que famille et professeurs doivent être reliés vers l'enfant. Par exemple, une famille ne devrait jamais, sauf cas exceptionnel, contester ce qu'un professeur a dit à un enfant.
Un exemple, si un enfant est pris dans un conflit de loyauté, cela existe sur la question de la laïcité entre ce que dit l'enseignant à l'école et ce qu'on lui dit à la maison, il faut alors aller expliquer aux parents plutôt qu'à l'élève.
Alors, il y a ce qui relève des convictions intimes et religieuses, et évidemment elle relève de la famille, mais lorsque ceci vient entrer en conflit avec les règles de la vie publique, de la vie en commun qui se passe à l'école, alors oui, bien sûr, les parents sont convoqués, il y a des discussions, c'est exactement le sens de mesures que j'ai prises là aussi à partir de 2017, pour que on ne laisse pas sans suite. Alors, quand ça atteint un certain niveau, oui, bien sûr, il y a convocation des parents, bien sûr.
À votre arrivée au ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, les défenseurs de la laïcité et plus largement des valeurs républicaines se sont réjouis de votre nomination, y voyant un signe d'espérance. Certains ont vite déchanté en prenant quelques exemples. Lorsque Didier Lemaire, professeur de philosophie autrefois à Trappes, dit que rien n'a changé. Lorsque l'auteur d'un livre sur l'assassinat terroriste de Samuel Paty, David Dinota, met bout à bout les rapports de l'Académie, les rapports des recteurs qui rapportent la soi-disant erreur de Samuel Paty qu'on a voulu le faire reconnaître. Vous contestez cela ?
Écoutez, on est d'abord la défense des valeurs républicaines. Je pense que personne ne peut me contester que je l'ai fait. Chaque cas que l'on évoque est un cas particulier. Le livre que vous évoquez, j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est lamentable comme démarche. Bien sûr, il y a aucune enquête, c'est un élément. Mais voyez, rien que le fait de dire ça, c'est déjà lui donner de l'importance. Il faut respecter les choses. Là, en l'occurrence, il y a une enquête sur ce qui s'est passé au moment de cet assassinat. Beaucoup de choses sont déjà connues. Ces choses-là doivent être faites avec calme. S'il y avait des failles de l'institution dont j'ai la responsabilité, je n'aurais aucune difficulté à les reconnaître. Mais n'allons pas chercher des choses qui sont fausses simplement pour faire scandale.
Ce qui est
malheureusement
dit dans ce livre,
c'est ce qui était fait. Non, mais il y a des phrases tronquées.
Le référent laïcité est venu corriger Samuel Paty.
C'est faux. Écoutez, il y a des tas de choses.
Il est venu lui expliquer les règles de la laïcité.
Si n'importe qui peut écrire n'importe quoi et qu'à cause de ça, on oblige un ministre à rentrer en polémique avec cette personne, je pense que ça n'est pas bon pour le débat démocratique.
Mais la vérité est importante, si vous pouvez l'éclairer par les faits.
Justement, ça n'est pas le cas. Donc, mais voyez, ce que vous faites, c'est que vous m'obligez. Oui, mais vous m'obligez à le faire. C'est le calcul de ce genre de personnes, c'est faire scandale à partir de rien. C'est donc c'est ainsi à faire de la publicité et obtenir ce qu'ils veulent. Mais bien entendu, si les choses étaient comme ils disent, ce serait il y aurait un problème. Sauf que si on revient sur les faits, par exemple, vous avez eu la principale est allée porter plainte avec Samuel Paty au commissariat. Le professeur Samuel Paty était joint par l'inspecteur d'académie adjoint le week-end précédent le drame. Le week-end, vous voyez, pour en solidarité avec lui, pour envisager avec lui comment faire. Donc toutes ces choses-là, il ne faut pas les occulter. C'est insultant pour les personnes en question. Il faut penser à ce qu'on fait vis-à-vis de personnes qui, en l'occurrence, on fait ce qu'elles ont pu et l'ont fait dans un sens qui allait dans celui du professeur Paty. Après, il y a eu tout ce qui s'est passé, un enchaînement de choses, c'est complexe. Ça ne relève pas forcément du domaine scolaire ce qui s'est passé une fois que la plainte a été déposée. On y reviendra largement lorsque les juges rendront l'enquête rendra ses premières explications. Et encore une fois, je n'aurai aucun problème à reconnaître ce qui sera dit à ce moment-là. Mais cette volonté de faire scandale, cette volonté d'entretenir des clichés sur tel ou tel sujet n'est pas ce qui facilite la vie démocratique. Et donc, je préfère qu'on en reste là sur cela.
Jean-Michel Blanquer, on va continuer sur d'autres sujets. Mathieu Bock-Côté va nous rejoindre avec évidemment Dimitri Pavlenko. Et puis, on essaiera de définir l'école sous Blanquer. À la fin de ce quinquennat, vous avez un record de longévité assez conséquent et impressionnant. Chiffre à l'appui, vous nous direz en quoi le décrochage scolaire a diminué et l'école de la confiance est-elle enfin là?
Effectivement, à tout de suite, restez avec nous.